France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La Chambre des communes a rejeté hier soir à Londres toutes les options alternatives à l'accord présenté par Theresa May sur le Brexit. Les députés avaient 8 choix, du no deal jusqu'au second référendum. Tous ont donc été rejetés. La première ministre britannique a, elle, indiqué hier qu'elle était prête à démissionner seulement si sa proposition de Brexit était adoptée par les parlementaires dans les prochains jours. Reconquête ou communication au menu de la réunion organisée par Boeing. Hier soir, l'avionneur américain a présenté des changements pour rendre le système de vol plus solide sur son modèle 737 MAX. Boeing a toutefois nié le fait que ces modifications pourraient être le signe d'une faute de conception au départ. Le FLN, parti au pouvoir depuis l'indépendance en Algérie, le FLN se désolidarise d'Abdelaziz Bouteflika. Idem pour le parti RND, le seul syndicat reconnu, l'UGTA. Tous réclament maintenant l'application de l'article 102 de la Constitution pour déclarer le pouvoir algérien vacant. Ça ne convainc pas les Algériens désireux, eux, de changer tout le système et pas seulement le président Abdelaziz Bouteflika. En France, c'est au sein du gouvernement qu'il va y avoir des changements avec 3 démissions annoncées hier. La désormais ancienne ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, elle portera la liste de la majorité aux européennes, nous le savions. Mais une autre élection bouleverse l'organigramme, les municipales dans un an. Son candidat à Paris, Benjamin Griveaux, jusque la porte-parole du gouvernement, et Mounir Majoubi, chargé du numérique. Tous les deux quittent donc le gouvernement. Au moins 1200 postes supprimés à Carrefour cette année. La direction du groupe l'annonçait hier. Elle assure que cette restructuration se fera sans départ contraint et souhaite passer par une rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire un accord avec les syndicats. Et puis notez que la trêve hivernale se termine en France dans 3 jours, le 31 mars. 6000 places d'hébergement pour les sans-abri seront pérennisées. Voilà ce que dit le ministre du Logement, Julien de Normandie. Au total, 145 000 places seront donc ouvertes toute l'année en France dans les centres d'hébergement.
Voir le monde au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Kervran.
Baleine à bosse, cachalot, dauphin et narval, LSD vous emmène dans les profondeurs marines pour une exploration sonore du monde des cétacés. Entre science, poésie et fascination, retenez votre respiration, tendez l'oreille et laissez-vous charmer par les chants bouleversants de ces grands mammifères qui, visiblement, ont quelque chose à nous dire.
Oubliez Moby Dick, exploration sonore du monde des cétacés, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, Toufik Hakem nous rejoint.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, mon invité ce matin est la chanteuse Clarica. L'autrice-compositrice sort son 7e album à la lisière. L'autrice, je viens enfin de prononcer ce mot.
Oui.
C'est la première fois, moi qui pensais ne jamais pouvoir le prononcer, je disais d'habitude auteur. Et vous Clarica ? Bonjour d'abord.
Oui, bonjour.
Vous
oui.
dites auteur ou autrice ?
Moi je dis auteuse.
Oh, bah dites donc. On s'y perd. Bon, en tout cas, vous sortez un 7e album intitulé À la lisière.
8e.
8e déjà ?
Ouais.
Bah là, il y en a un qui m'a échappé. En tout cas, cela fait 25 ans que vous nous enchantez en offrant album après album de bonnes raisons de ne pas désespérer de la variété française. Tous les jeudis, le réveil culturel se fait en musique. Le réveil culturel, c'est tous les matins, tout à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amard. À l'animation des réseaux sociaux, Maël Ray. C'est une réalisation de Vincent Abou avec ce matin la prise de son Alain Joubert.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Allez, un peu d'histoire. En 1973, Sheila et Ringo chantaient « Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien », dans le genre positivant, même si le crash pétrolier, même si la crise nous empêche de prendre des vacances. Plus de 45 ans plus tard, Clarica et Pierre Lapointe, sur une musique tout en hommage à la variété française des années 70, s'embarquent à Venise, mais la crise est toujours là, peut-être plus profonde à l'heure du tourisme de masse.
À Venise.
Venise est rien que pour les cons.
Se gondoler sur la Tamise,
même pas de quoi en faire une chanson. On n'ira jamais à Venise.
Venise c'est qu'une ville de pigeons.
Ceux qu'on plume pour quelques devises,
ceux qui ripollinent vos petons.
On rêvait de Venise en hiver, de palace au plancher flottant, de Visconti triste mais fier, accoudé au bar chancelant. On rêvait de danser sous la neige, pieds nus sur les planches du Lido, bercé par le flot des arpèges
d'un chanteur au doux vibrato.
On n'ira jamais à Venise
rejoindre le troupeau à gare de Birkenstock en chemise,
ce selfies en place Saint-Marc. On n'ira jamais à Venise
partager les yeux trémolos, un plat d'oreiller qui était promise
à terminer dans le caniveau.
On rêvait de Venise sous la lune, faire l'amour en vaporetto, puis plonger nu dans la lagune, refroidir nos corps bras zéro.
On rêvait d'ivresse et de mostra,
Valpolicella d'Ambroso et des grands yeux de Giulietta
nageant dans ceux de Federico.
On rêvait, c'est clair,
mais on n'aurait pas eu les sous.
Alors gardons cette chimère
d'un souvenir précieux et doux.
On rêvait et on rêve encore,
mais Venise s'enlise doucement
comme nos amours mis à mort
par l'usure et l'eau et le vent.
Comme nos amours mis à mort par l'usure et l'eau et le vent.
Clarica, il y a dans votre album, À la lisière, comme dans ce titre qu'on vient d'entendre, eh ben une musique gaie, une manière de chanter comme à l'époque des années 60-70, et pourtant, tout ça est accompagné de propos qui ne le sont pas du tout gaies. C'est le moins que l'on puisse dire.
Pas forcément, oui. Bah, je pense qu'on peut dire des choses graves avec une forme plus légère. Ça n'empêche pas les choses de passer, au contraire, plutôt que de les appuyer. Après, le compositeur, Florent Marché, a aussi fait des mélodies un peu mélancoliques. Mais l'emballage est toujours un peu lumineux. Enfin, c'est une volonté aussi de ne pas enterrer le propos.
Et quand je dis que c'est en hommage à cette variété française des années 70, des Sheila et Ringo, par exemple.
C'est pas un hommage direct, mais c'est vrai que moi, petite fille, j'avais des 45 tours de Sheila sur ma moquette orange, et c'est une petite, c'est mes gondoles à Venise à moi, quoi, quelque part.
Sauf qu'elle est triste, votre chanson, Clarica.
Oui, elle est triste, mais est-ce que la chanson de Sheila a été si gaie que ça? Il faudrait qu'on réécoute les paroles, je ne sais pas. What? Laisse les gondoles à Venise, au soleil sur la Tamise, bon, oui, alors
on est en crise, ensemble, quand même. C'est le choc pétrolier, oui. On va rester à la maison, c'est pas plus mal. Vous vous dites, même quand on a les moyens d'aller à Venise, mais... oui. Eh ben, tout est moche là-bas.
Oui, mais c'est de la mauvaise foi, c'est quelqu'un qui sait la fin d'un amour et qui dit, bon, on n'y est pas allé, c'est pas grave, de toute façon c'était nul, mais quelque part c'est... la pure mauvaise foi, parce que même si Venise est un peu dévoyée, ça reste une ville magnifique et je trouve qu'il y a toujours un pouvoir de, enfin, qui est toujours fascinante malgré les magasins de souvenirs partout et les arnaques.
Quand je dis, Clarica, que vous êtes totalement dans la chanson française populaire, la pop, la variété française, vous entendez ce que je dis ou...
Ah, moi, la variété, pour moi, c'est pas péjoratif, parce que des fois, c'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est varié.
Longtemps, ça l'a été, hein.
C'est varié. Péjoratif. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours, je suis vraiment le produit de plein de musiques que j'ai écoutées, à la fois de la variété, comme on dit, quand
Mariti,
j'étais petite.
Gilbert Carpentier, ouais.
Comme ça, petite. Et puis après, de la pop, du hard rock, du métal, et aussi, de la chanson avec des textes, parce que je pense que à l'adolescence j'ai découvert des gens comme
J'ai été bercée par des Bachung, Gainsbourg, Higelin, Thiéfaine, Lavilliers, Jonas, Renaud, Souchon. Voilà, c'est un peu qui m'ont donné envie d'écrire mes propres textes en français et de raconter mes histoires à moi, quoi.
C'est venu d'une envie de raconter vos histoires, d'écrire des textes, Clarica, ou de chanter et d'avoir tout de suite la musique d'abord?
En fait, l'envie première, c'est de faire de la scène. J'étais vraiment dictée par ça, c'était le premier moteur. Alors comment faire? Au départ, c'était un vague fantasme d'être actrice ou comédienne, comme on peut, voilà, mais sans être vraiment définie. Et puis j'adorais chanter, mais ça c'était chez moi... On a toujours chanté beaucoup, mes grands-parents chantaient, on chantait dans la voiture, c'était pas des professionnels, mais c'était vraiment notre culture. Mon grand-père chantait beaucoup, ma maman chantait, et donc j'étais un peu bercée là-dedans. Mais par contre, c'est la scène qui m'a motivée à écrire. Je pense qu'au départ, si j'avais trouvé peut-être des auteurs qui m'avaient écrit des mots, peut-être que j'aurais pas eu ce déclic d'écrire moi-même. Après, une fois que j'ai commencé à écrire, ça m'a paru indispensable de le faire moi-même, et c'est devenu... Je sais pas, peut-être pas une nécessité, le mot est fort, mais en tout cas vraiment un besoin.
Et pour les musiques?
Et la musique, moi, j'aime la musique, je l'ai un peu étudiée, mais pas assez pour composer, parce que je suis très attachée aux mélodies et j'ai déjà vaguement essayé de faire des musiques, j'en suis capable, je pense, mais je suis pas une bonne mélodiste, et pour moi, la mélodie est tellement indissociable du texte. Toujours un manque si la mélodie me touche pas, même quand le texte est énorme sur certains chanteurs. Donc pour le coup, je fais appel à des gens qui le font beaucoup mieux que moi.
Mais alors concrètement, ça se passe comment, Clarica? Vous avez d'abord une atmosphère, des paroles, un refrain ou toutes les paroles avant d'envoyer tout cela à vos compositeurs de prédilection? On va en parler d'ailleurs.
Ouais, en général, j'aime bien avoir des paroles, j'aime bien avoir un texte abouti dont je suis fière et dont j'assume tout. D'abord les mots en général. Il y a des exceptions. Il m'arrivait parfois d'écrire un texte sur une mélodie qui m'a été proposée, mais c'est assez rare. Et pour le coup, voilà, en général, c'est ça. J'envoie le texte et
avec des indications.
Avec rien. Et même si parfois je dis, je vois ça. Alors souvent le texte, il induit déjà une atmosphère, quelque chose naturellement. On se comprend assez vite avec les compositeurs parce que j'envoie pas mes textes à tous les compositeurs de la place de Paris. J'envoie vraiment à quelques-uns, voire un ou deux. Que je connais, que j'aime, où la sensibilité, on sait qu'elle est. Donc, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, la chanson me revienne. Je n'aime pas trop assister aux étapes de mélodie, tout ça. J'aime bien qu'on me renvoie une chanson, même guitare-voix, mais je l'écoute un peu comme si j'avais pas écrit de texte. Parce que c'est instinctif, ça me parle ou ça me touche ou pas. Je trouve que la chanson, c'est un peu ça. Faut pas que ce soit cérébral,
Sauf que ce qui vous caractérise, Clarica, c'est que vos chansons sont douces amères pour la plupart. C'est un peu de la pop à la sauce sociale, on peut le dire, hein. On va en parler des thèmes de
prédilection. Ah oui, non, mais c'est très important le propos. Mais pour le coup, moi, quand on me renvoie la chanson, il faut qu'elle me parle. Entièrement, c'est-à-dire avec la musique. Et j'aime bien l'idée de me dire, c'est pas moi qui écris le texte et j'écoute cette chanson, qu'est-ce que ça me fait, quoi.
Mais à chaque fois, il y a ce contraste avec des musiques de plus en plus légères, de plus en plus sucrées, avec des propos qui le sont beaucoup moins.
Ouais, je sais, moi je ressens pas le contraste systématiquement, mais c'est vrai que l'idée, je trouve que la musique, elle apporte une dimension quand on choisit, c'est-à-dire si on peut... Parfois, si on dit un texte très dur avec une musique un petit peu détachée, je trouve que le texte est d'autant plus dur et il y a cette espèce
absolument,
de recul.
Absolument, y compris quand vous êtes cynique, il y a quelques textes où vous êtes vraiment cynique, Clarica.
Alors que si on enfonce le clou, par exemple, une chanson où on revendique quelque chose, si on est dans une musique comme ça, premier degré, c'est pas forcément intéressant. Alors que si on apporte quelque chose d'un peu plus détaché, avec une distance, ça crée une ironie et ça crée quelque chose que je trouve plus fort.
Êtes-vous féministe? On va écouter une chanson où vous semblez l'être.
Évidemment, quand on est une femme, c'est difficile de pas l'être. Moi, j'ai été élevée dans un contexte. J'ai eu la chance qu'avant moi, des femmes aient mené des combats qui ont quand même amélioré le sort des femmes. Et par ailleurs, il y a encore pas mal de. Même si moi, personnellement, dans mon métier, j'ai pas souffert d'être une femme. Au contraire, toujours. Trouvé que c'était presque un espèce d'intérêt, ça a apporté une petite lumière. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, mais par contre, je constate qu'on est une société qui est encore basée sur la suprématie masculine quand même. Et pour le coup, je le suis, oui. Et alors cette chanson, ce qui est drôle, c'est que c'est un homme qui me l'a écrite. Voilà. Et c'est moi c'est une des rares chansons que j'ai pas écrite dans l'album. Et c'est moi qui avais cette idée de je suis ton homme. Je trouvais que c'était pour une femme pas mal de voir ce qu'on pourrait en faire. Et j'ai demandé à Jean-Jacques Nissen d'écrire une chanson là-dessus.
Mais qu'est-ce que t'as? Tu veux mon doigt? Tu veux ma main, tu veux mon poing. Que je te décalque, que je te dégomme. Je suis ton homme. T'as pas dormi ou t'as pleuré. T'as les yeux, c'est des œufs pochés. Allez viens, on se fait un péplum. Je suis ton homme. Ça marche, ça roule ma poule. Je suis ton homme. Mais tu veux quoi? Que je te plaigne? Que je galère parce que tu rames? Parce que tu perds et que je gagne? Je suis pas ta femme, tu sais. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on sorte? Tu veux me coincer entre deux portes? M'aimer sous l'éclat de ta lame? Je suis pas ta femme. Capito gros, je suis pas ta femme. Compris petit? Allez allez. Et puis lâche mes bas. Lâche-les, je te dis. Je te dis. Je te dis. Tu fermes ta bouche ou tu accouches. On se parle plus ou on recouche. On fait comme as, on fait ça comme. Je suis ton homme. C'est comme tu veux, c'est toi qui vois. On fait tout voler en éclats. Ou on s'écrase comme des chewing-gums. Je suis ton homme, ça marche, ça roule ma poule, je suis ton homme.
L'art de renverser les clichés, les rôles. Je suis pas ta femme, je suis ton homme. Clarica, extrait de votre dernier album qui vient de sortir, À la lisière.
Oui, oui, non, mais c'était drôle de jouer avec les codes aussi, les clichés, comme vous dites. Ouais.
Sur scène, ça ressemble à quoi, un show de Clarica?
Bah écoutez, moi je m'amuse beaucoup. Enfin,
comédienne par exemple.
Bah,
j'essaie de vous imaginer en train d'interpréter cette chanson sur scène parce qu'il y a tout ce recul. Effectivement, on est dans l'ironie.
Oui, on est dans l'ironie et puis c'est une chanson en plus qu'on a décidé de mettre assez vite dans le parce qu'à la fin elle s'énerve la chanson et je m'énerve. Là, pour le coup, voilà, on fait même une citation des White Stripes dans le truc. Et sur scène, j'aime bien... D'abord, il y a une scénographie, toujours un décor, quelque chose qui est vraiment très identifié pour chaque tournée, parce que j'y attache beaucoup d'importance. Et puis, oui, c'est un show. Pour moi, la scène, c'est vraiment un show. On vient voir autre chose qu'écouter un album. Donc, je cherche pas à reproduire les arrangements, parce que je pourrais jamais avoir un orchestre symphonique, etc. Donc, je m'entoure de musiciens multi-instrumentistes, très talentueux, très impliqués aussi dans le spectacle, qui peuvent, à un moment donné... On peut faire une chorégraphie, on peut, il y a des chœurs, il y a beaucoup de choses et c'est très visuel et j'aime bien les contrastes, passer de choses assez intimes, dépouillées, puis des morceaux où on part un peu en vrille. J'adore ça, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression que tout se concrétise après tout le processus d'écriture puis l'enregistrement.
Qu'est-ce qu'on apprend au fil de sa carrière, Clarica? Je rappelle que ça fait 25 ans que vous chantez, hein, premier album en 1993. Mm. Ah ça, je m'en souviens très bien. Ça, puisque c'était la belle époque de Francis Hadji, Lazaro.
Boucherie Production.
Hein, ouais. Avec votre chanson « Tu dors tout le temps » déjà, ça a commencé comme ça. C'était « J'attendrai pas 100 ans » en 93. Mm. Puis il y a eu en 97 « Ça se peut pas ». Avec cette chanson « Beau comme un garçon ». Et puis en 2001, « La fille, tu sais ». En 2005, « Joker », avec les deux duos « L'océan des possibles » en compagnie de Michel Jonas et « Non, ça se peut pas » avec Bernard Lavillier. En 2009, aussi, un beau titre que vous trouvez, « Moi en mieux »,« La tournure des choses »,« De quoi faire battre mon cœur » et puis enfin, « À la lisière ». Alors, comment évolue le métier? Parce que si on résume bien votre carrière, Clarica, vous avez commencé dans un monde où de la musique qui était régie par les maisons de disques, même si vous avez commencé par un label indépendant. Oui. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Comment vous avez traversé cette période?
Disons que j'ai traversé la tempête. Je suis encore là sur la rive. Non, c'est.
Vous dites la tempête, vous dites pas bénédiction. On n'est plus libre.
Je sais pas si c'est une liberté. En fait, je me suis toujours sentie relativement libre, même que quand j'ai été effectivement sur un premier label qui était un label indépendant, ou plus tard dans des majors, puisque je suis passée aussi par des majors. Je suis retournée aujourd'hui dans un label indépendant, mais c'est vrai qu'en tout cas artistiquement, que j'ai été chez l'un ou l'autre, j'ai jamais eu de. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même en tant que femme, quoi, j'ai jamais eu de contraintes. Enfin, évidemment. En tout cas, moi, quand je fais une chanson, je sais que je dépends d'un espèce de contexte où il faut qu'elle se vende. Bon, ça, c'est la base, parce que j'ai envie qu'on l'écoute, j'ai envie qu'elle soit diffusée. Mais après, jamais fait de compromis, sincèrement, et vraiment, c'est pas de la langue de bois artistique. J'ai toujours fait les chansons que j'avais envie de faire. J'ai toujours pu travailler avec les gens avec qui je voulais travailler. Et ça, que ce soit au niveau des musiciens, que ce soit au niveau des compositeurs, des réalisateurs, et même les pochettes d'albums ou des choses qui sont aussi importantes quand même pour. Donc, j'ai pas senti, j'ai pas senti de contrainte. Si, moi, je trouve que c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Ça a toujours été compliqué. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, on traverse une grosse crise du 10. Donc, c'est compliqué d'exister aussi, de vivre de son métier, tout simplement. C'est quand même un peu la base. Parce que, il y a moins de moyens aussi. Alors, on en trouve d'autres. Ça crée aussi, effectivement, une autre audace et une autre liberté. Mais c'est pas plus simple qu'avant, je dirais. Enfin, c'est. Puis voilà, avec le numérique, etc. Bon, c'est super d'avoir toutes les musiques du monde, mais encore faut-il trouver une économie pour que ce soit quand même.
Et l'économie, l'équation se règle avec la scène, non ?
Oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que même la scène, moi je fais beaucoup de scènes, j'ai cette chance-là, justement parce que comme vous le disiez, ça fait 25 ans et que j'ai fait beaucoup de scènes et que. On me fait confiance et que les tournées se passent plutôt très bien, mais quand même, moi je le vois concrètement. Je tourne dans plein de styles de salles, mais notamment des scènes, des centres culturels, des théâtres, etc. Et ben c'est vrai que tout le monde pleure beaucoup quand même parce qu'il y a moins d'argent, il y a moins de subventions, il y a moins de ceci cela, donc il y a moins de place pour tout le monde et donc il faut quand même aussi s'adapter. Les spectacles, ça coûte un peu cher et pour le coup, il faut réduire un peu tout pour rentrer dans le moule. Donc on dit beaucoup que le spectacle vivant est en train de rattraper, mais moi je vois pour des artistes peut-être moins qui sont là depuis moins longtemps que moi et qui n'ont pas forcément défoncé le box-office là, c'est difficile de faire des vraies tournées dans des vraies conditions. C'est-à-dire évidemment si on va jouer pour rien, on peut toujours jouer, mais faut quand même avoir un minimum pour vivre quoi.
Par exemple, vous, Clarica, quand vous tournez, vous êtes accompagnée de combien de musiciens, par exemple ?
Ben nous, par exemple, on est sur la route, on est 6, ce qui est peu. Alors j'ai 3 musiciens, comme je disais tout à l'heure, multi-instrumentistes. Moi, j'ai très bonnes conditions, je me plains pas. J'ai un producteur, j'ai un tourneur, quelqu'un qui s'occupe, qui me cherche des dates. Enfin, je suis déjà dans un mood que n'ont pas beaucoup d'artistes. Mais on a déjà en tête cette idée de se dire bon, il vaut mieux être un peu moins, sans faire de compromis artistiques, justement. Donc ça demande de beaucoup d'imagination et de faire appel à des gens qui ont grande créativité et beaucoup de palettes, parce qu'on n'a pas envie de brader le truc, donc on a envie de faire la même chose, mais on est obligé de réfléchir, c'est-à-dire qu'on on réfléchit. Un décor, on se dit, on veut un super décor, mais pour le coup, ce décor-là, il faut pas qu'il coûte 100 000 euros, il faut qu'il coûte tant, il faut qu'on puisse le transporter de telle manière. Voilà, on est obligé de se poser des questions. Tant qu'il n'y a pas de compromis artistique, c'est pas grave. Mais après, il faut pouvoir jouer les dates, aller dans les lieux. Voilà.
Mais vous tournez beaucoup.
J'ai cette chance-là. Voilà, j'ai la chance de quand même pouvoir. Parce que peut-être je suis là depuis longtemps, qu'on me fait confiance, que j'ai un public aussi qui me suit. Donc les organisateurs, ça les rassure un petit peu.
Est-ce que vous vous inscrivez dans une des écoles de la variété française, Clarica ?
Je me suis toujours un petit peu sentie, pas électron libre, mais je me suis jamais sentie appartenir à une famille particulière. Après, évidemment, ce qu'on appelle la nouvelle ou moins nouvelle ou scène française ou la vieille nouvelle scène française, ou je sais pas comment on peut l'appeler. C'est Dominica qui avait dit ça, je sais plus, on faisait une interview, je sais plus comment il l'avait définie. Oui, je suis quand même dans un type de scène française, on fait pas de la grosse, enfin, on n'est pas dans la grosse industrie. On est un peu au milieu de tout ça. Ouais, la scène française, nouvelle. Enfin, nouvelle, elle est plus très nouvelle. Puis, on a plein qui sont arrivés après, et tant mieux. Enfin, c'est une grande famille, alors, recomposée.
Clarica, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que vos chansons résument bien vos états d'âme aujourd'hui, ou ce qui vous intéresse le plus, c'est de résumer le monde dans lequel vous vivez?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que mes états d'âme, j'espère, s'inscrivent dans le monde dans lequel je vis. Je suis comme tout le monde un peu une éponge de ce que je vis, et les chansons que j'écris sont très proche de moi. Donc évidemment, une chanson, c'est pas un journal intime dans le sens où elle va être livrée. Donc quand on écrit, à la fois on donne beaucoup de son intimité, mais la limite, c'est de prendre conscience que ça intéresse les autres et que ça touche les autres et que c'est, ça résonne aussi. Donc
vous l'aimez, votre époque, notre époque, parce qu'on va passer une chanson où vous êtes assez dur et c'est plutôt bien vu.
Je l'aime comme je la déteste, c'est-à-dire c'est un amour, c'est que évidemment je l'aime pour plein de raisons et j'ai quand même encore la foi en les hommes. J'espère quand même qu'il y a une part de, et en même temps elle me fait peur, elle me terrifie. J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'avancer. Et je suis.
Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous terrifie, Clarica?
Le monde tel qu'il est là aujourd'hui et comment il s'articule vers ce à quoi il se destine, tous les sujets qu'on peut, il fait un petit peu peur quand on a des enfants et même si on n'en a pas d'ailleurs, on a un peu peur de vers quoi on les amène, que ce soit au niveau de la planète, enfin tout quoi. Et c'est vrai que si on est trop lucide, il faut une part d'insouciance et de légèreté aussi, mais il faut aussi en parler, voilà.
C'est ce que vous faites,
ouais, bon, j'essaye.
Si bien.
À mon niveau, j'essaye.
Dans votre album, on écoute un dernier extrait d'À la lisière, dernier album de Clarica.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
On veut la mer à Bobigny, la lune en plein soleil, la semaine des quatre jeudis, y a de la joie au réveil. On veut rouler en AMI-8, en fumant des Havanes Menthol, chevaucher des météorites, sauter des avions en plein vol. Et l'amour en tête de gondole, et l'amour en tête de gondole. Des puissants et des rois. On veut le droit à ne rien faire, la paresse en axiome, le plaisir pour tous sur la terre, sous un ciel polychrome. Et l'amour en tête de gondole, et l'amour en tête de gondole.
Autant qu'on en profite.
Tout de suite.
tout de suite, la belle vie.
Oui.
Clarica, alors cette chanson pour vous?
C'est à la fois, on est dans un monde où tout va très vite, on veut les choses assurément, et puis en même temps, ce que je désire, c'est vivre l'instant aussi, moi aussi. Mais alors là, je parle pas de notoriété, d'argent, je parle de choses très simples, quoi. Ou très bizarre, ou enfin voilà, c'était une manière de dénoncer un truc, mais en même temps, finalement, moi aussi, j'ai envie d'en profiter parce que demain ce sera un peu tard, voilà. Mais il s'agit pas de, c'est pas des valeurs matérialistes, par contre. Voilà.
Mais vous rendez bien compte que pour quelqu'un, par exemple, qui comprendrait pas le français en écoutant cette chanson, il aura vraiment l'impression que c'est une chanson plutôt très très légère où tout le monde danse,
oui, mais c'est
avec
ça que
plein
j'aime
d'étoiles.
Bien. Ben, c'est ça que j'aime bien.
Ouais.
C'est ça que j'aime bien. Je trouve ça super. Les chansons. Ben, il y a eu des chansons comme ça. Je pense à des chansons d'Erita Mitsuko.
Le petit train, par exemple.
Le petit train qui est, on voit des, quand on écoute les paroles, c'est glaçant. Et c'est là où les paroles prennent un sens encore plus fort.
Vous serez en concert dès demain.
Oui, dès demain. Metz à l'Arsenal, ouais, le 30.
Après-demain, Lyon.
C'est complet à Lyon, mais par contre, il reste encore quelques places à la Cigale le 3 avril.
Le 3 avril, et on y sera. Merci Clarica d'être
Merci
passée.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. Informer, analyser, comprendre. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2h d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture avec François-Xavier Bellamy, philosophe, tête de liste des Républicains aux élections européennes, ce jeudi dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nathalie Loiseau, mais aussi Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, tous les trois quittent le gouvernement. Remaniement plus large que prévu face aux élections qui se profilent, vous le comprendrez. Explication aussi dans ce journal autour de la proposition de Theresa May. La première ministre britannique se dit prête à démissionner si le Parlement adopte son texte pour sortir de l'Union européenne. Boeing et l'agence de régulation aérienne américaine se justifient après les crashs de deux appareils 737 MAX. Compte rendu des auditions à suivre et puis compte rendu également d'audience dans le procès en appel d'Abdelkader Merah. Son frère aîné était à la barre hier. Le remaniement gouvernemental ne se limitera donc pas au remplacement de Nathalie Loiseau. Le départ de la ministre des Affaires européennes était acté depuis l'officialisation de sa candidature pour les européennes. Elle représentera la majorité. Avec elle partent également deux secrétaires d'État. Emmanuel Macron a accepté hier soir leur démission, celle de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et puis celle de Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Tous les deux sont volontaires pour être candidats à La République En Marche au municipal à Paris, Rosalie Lafarge.
Faire d'une pierre trois coups, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus simple pour l'Élysée. Plutôt que de remanier l'équipe d'abord pour remplacer seulement Nathalie Loiseau et plus tard pour trouver les successeurs des volontaires pour la mairie de Paris, l'exécutif fait son ménage de printemps maintenant et ce choix d'agenda interroge. On est à 2 mois du scrutin européen, à 1 an des municipales. Sortir tous les candidats en même temps, n'est-ce pas prendre le risque de brouiller le message ? C'est le regret de certains dans la majorité. Benjamin Griveaux force la main et ça se voit, ces enfantillages risquent de coûter cher au lancement de la campagne européenne, critique un marcheur. Chez les proches du désormais ex-porte-parole du gouvernement, on tempère. On veut voir ici un choix partagé avec l'exécutif pour tester au mieux la candidature de Benjamin Griveaux à Paris. Mais sortir Benjamin Griveaux, cela voulait dire forcément sortir le secrétaire d'État Mounir Majoubi. Lui aussi se verrait bien à la mairie de Paris et on voit mal l'exécutif avoir un candidat dehors, un autre dedans. La bataille pour la capitale est donc bel et bien lancé au sein du parti majoritaire. Le gouvernement, lui, doit se pencher sur les remplaçants des sortants. Si des noms circulent déjà, les nominations n'interviendront normalement pas avant le retour du Premier ministre. Édouard Philippe en déplacement au Qatar jusqu'à demain.
Au Royaume-Uni, c'est un changement bien plus important qui pourrait avoir lieu au gouvernement. La Première ministre, Theresa May, se dit prête à se sacrifier sur l'autel du Brexit. Elle assure qu'elle démissionnera si et seulement si le Parlement britannique vote l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Un vote qui pourrait avoir lieu dans la journée ou bien demain, vendredi. Analyse de cette annonce par Patrick Martin-Jeunier. Il est enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes.
Le fait qu'elle dise qu'elle s'en aille, c'était la condition qu'avait mis Jacob Rees-Mogg, qui est le président d'un groupe, vous savez, qui dirige 70 parlementaires eurosceptiques. Il avait exigé le départ de Theresa May. D'ailleurs, il est lui-même sur les rangs pour être Premier ministre, en concurrence avec Boris Johnson et d'autres. Mais il y a un autre obstacle. Vous vous rappelez que la dernière fois, c'est John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui avait refusé de soumettre au vote parce qu'il considérait que l'accord qui avait été négocié n'avait pas changé d'un iota. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas changé. Et Et donc, John Bercow pourrait très bien, ce serait un nouveau rebondissement, considérer que dès lors que cet accord n'a absolument pas bougé, eh bien, il refuserait de le soumettre au vote à la Chambre des communes. Donc, on est encore dans une situation très incertaine.
Situation shakespearienne, donc. Le Parlement britannique a refusé par ailleurs hier tous les scénarios possibles qu'il s'était auto-proposés. Les 8 choix ont été rejetés par les députés lors d'une série de votes indicatifs. Nouvelle condamnation pour Monsanto aux États-Unis. Le groupe doit payer 71 millions d'euros à un retraité malade d'un cancer qu'il attribue au Roundup. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un jury populaire condamne le géant de l'agrochimie. Bayer Monsanto va faire appel de cette décision. Les États-Unis, où Boeing a présenté hier les modifications apportées sur le logiciel de stabilisation de ses appareils 737 Max. Deux avions de ce type, rappelons-le, se sont écrasés en 6 mois. Un nouveau logiciel donc présenté hier à Seattle, quand au même moment à Washington, le patron de la FAA, l'agence de régulation aérienne américaine, lui était entendu par le Congrès et il a dû expliquer dans quelles circonstances son agence avait certifié ses appareils, Grégory Phillips.
Ethiopian Airlines Flight 302 departed Addis Ababa.
Pendant 2h30, le sénateur Ted Cruz et ses collègues, démocrates et républicains, passent sur le grill l'administrateur de la FAA, Dan Elwood. C'est son agence, l'administration fédérale de l'aviation, qui donne son feu vert à tout ce qui vole aux États-Unis. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, demande s'il est possible que l'agence ait négligé ou mal appréhendé certaines mesures de sécurité concernant le 737 Max. Elwood répond que la FAA fait bien son travail, mais que si au terme des investigations en cours, des erreurs sont relevées, alors le bureau de certification modifiera ses procédures. Plus tôt au Congrès, c'est la secrétaire au transport, Hélène Chao, qui a été entendue. Il n'y avait aucune raison factuelle de clouer ces avions au sol, déclare-t-elle, alors que les autorités américaines ont attendu 3 jours après le crash en Éthiopie pour prendre cette décision. À Seattle, enfin, au même moment, le vice-président de Boeing, Mike Sinnett, prend la parole pour dire qu'à ses yeux, le 737 Max reste un avion sûr. Il promet néanmoins que le logiciel MCAS de stabilisation de ses appareils sera modifié et présenté à la fin de cette semaine.
La journée fut dense hier au procès en appel d'Abdelkader Merah et Feta Malki à la cour d'assises de Paris. Elle a entendu l'ancien patron du renseignement français, Bernard Squarcini, auteur de la formule si décriée du loup solitaire pour qualifier Mohamed Merah, l'auteur des attentats de Toulouse et Montauban, le frère cadet de l'accusé. La cour a également entendu le frère aîné de la fratrie, un témoignage à charge contre Abdelkader Merah, Florence Turm.
Pas une fois, son regard ne croise celui de son frère, mais face à la cour, Abdelghani Merah répète sa certitude. C'est lui qui a armé le bras de Mohamed Merah. Il est là, on a notre futur Ben Laden français. La référence n'est pas innocente. Le 11 septembre, Abdelkader Merah a crié pendant 2 heures le nom du commanditaire des attentats. L'ancienne compagne d'Abdelghani Merah, elle, se souvient qu'il voulait même se faire tatouer son nom sur le front et qu'elle craignait qu'il ne vienne, comme il l'avait annoncé, prendre son fils le jour de ses 18 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jeune homme élégant, chemise blanche, costume gris qui s'avance à la barre, étudiant en école de commerce. Il rappelle l'influence que ses deux oncles ont pu avoir sur lui durant son enfance, explique qu'il a aussi rompu tout lien avec son père. Vous voulez dire quelque chose à Monsieur Merah? Je vois que vous le regardez, intervient la présidente. Il hésite un peu. Je ne comprends pas. Ce qu'a fait Mohamed, c'est horrible, dégueulasse, sauf que lui, il a été jusqu'au bout, il a assumé. J'espère, glisse-t-il la voix tremblante, que cela ne sera pas mal interprété. Mais toi, tu mens, tu cherches à protéger ta petite personne, tu t'enfermes dans la lâcheté. À son tour, Abdelkader Merah demande la parole, voix calme face à son neveu. Je souhaiterais lui dire que je suis fière de lui. Après l'épreuve qu'il a subie, il s'en sort comme un homme. Je comprends qu'il pense que je suis complice, mais je tiens à te dire aussi, conclut-il, que je suis sincère et que je suis innocent.
Florence Turm qui suit pour France Culture ce procès d'Abdelkader Merah. La manifestation envisagée après-demain samedi sur les champs Élysées dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes. Cette manifestation sera interdite. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner l'annonçait hier. 3 mois d'ateliers de concertation pour mieux encadrer et accompagner surtout les mineurs chez l'aide à l'enfance. Ils sont au total plus de 340 000. Et hier donc, le nouveau secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, lançait une concertation, Maud Calvez.
Plus de contrôle dans les structures d'accueil, développer l'accompagnement scolaire ou encore augmenter l'offre d'hébergement. En bref, comment améliorer l'aide sociale à l'enfance? Une vaste question à laquelle le secrétaire d'État chargé de la protection à l'enfance, Adrien Taquet, aimerait répondre.
Comment on sécurise davantage la vie de ces enfants quand ils sont pris en charge dans des institutions ou dans des familles d'accueil? Question de la scolarisation. On a beaucoup d'enfants qui connaissent des ruptures dans leur scolarité. Comment on invente des nouveaux modèles pour accompagner ces enfants-là?
Un enfant placé peut être changé de structure jusqu'à 7 fois. Comment donc lui assurer un environnement stable? La réponse est essentielle. Hervé Lot, directeur de l'association SOS Village Enfant.
Quand on reconstruit des possibilités pour les jeunes d'avoir des adultes sur qui compter, mais aussi pour qui compter, c'est un maillage au fur et à mesure entre l'école, le quartier, les éducateurs qui s'occupent d'eux. Et on sait très bien les bouleversements que ça peut produire. Les enfants, par exemple, au bout d'un moment, vont arrêter d'avoir confiance et vont arrêter de créer des liens sincères.
340 000 jeunes sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, une aide que gèrent les départements. Ils y consacrent plus de 7 milliards d'euros chaque année. Frédéric Bierry est vice-président de l'Assemblée des départements de France. Malgré tout, la collectivité est dépassée.
On a besoin aujourd'hui d'accompagnements de santé qui ne sont pas aujourd'hui en nombre suffisant aussi. Là, on est sur le fond. C'est bien de travailler sur les enjeux de société, mais on voit bien que face à cette augmentation sensible des situations, à un moment donné, il faudra aussi pouvoir disposer de plus de moyens.
Une demande appuyée en temps réel puisqu'une vingtaine de personnes constituent chaque groupe de travail, parmi lesquels départements, associations, familles d'accueil, mais aussi anciens enfants placés.
Ce jeudi sera globalement une belle journée ensoleillée. Il fait 9 degrés à Besançon et Lille, 11 à Paris, 15 degrés ce matin à Marseille. Vous écoutez France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, les initiatives se multiplient pour sortir l'Église catholique de la spirale infernale des affaires de pédophilie et d'abus sexuels, tout comme du secret qui les couvre.
Oui, et ces initiatives, elles viennent le plus souvent des fidèles eux-mêmes dans la croix. Le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et membre du conseil rapproché du pape, le constate et l'encourage comme le meilleur moyen de remédier à la crise que traverse l'institution, celle d'une perte de crédibilité en raison de la révélation des abus sexuels, mais aussi du manque de transparence financière, d'une culture du secret, dit-il. Il est vrai que l'Église allemande est réputée pionnière en matière de réforme, voire hérétique aux yeux de certains, comme le confie le prélat, du fait notamment qu'elle dispose de beaucoup de professeurs de théologie, dont de nombreuses femmes, qui enseignent dans une vingtaine de facultés ou d'instituts de théologie. Ils peuvent écrire, discuter, publier, donc alimenter le débat. Des laïcs très organisés effectuent également un travail critique et le voisinage de l'importante communauté protestante constitue à cet égard une stimulation. Reinhard Marx plaide pour une meilleure organisation et surtout une meilleure répartition des responsabilités. On ne peut plus réunir un synode des évêques sans y inviter aussi des laïcs, femmes et hommes. Sur la vie des prêtres, il évoque la nécessité, dès la formation, de s'inquiéter de la maturité affective des impétrants, mais aussi de réfléchir au sujet des viri probati, l'ordination d'hommes mariés d'âge mûr à la fois éprouvé, ou d'aborder sans détour certains points de notre morale sexuelle, comme par exemple l'homosexualité, y compris dans le clergé. Il ne s'agit pas là, comme le craignent certains, de s'adapter à l'esprit du temps. Le Concile Vatican II avait assigné à l'Église de se situer dans une société moderne, pluraliste, et de lire les signes des temps à la lumière de l'Évangile, ce qui est plus exigeant. Dans le Figaro, Chantal Delsol rapporte les problèmes de pédophilie à la nature holiste de l'institution catholique, où l'individu n'existe que dans sa relation à la communauté, d'où la passion pour le secret. Les sévices causés aux faibles par le fort, investis d'autorité, sont soigneusement camouflés et le faible est tenu de se taire dans la famille pour les cas d'inceste et dans toutes les institutions, dont l'Église, pour les cas de préjudice ou crime, quel qu'il soit. Car alors, préserver l'institution, c'est sauver un ordre social sans lequel l'individu lui-même ne serait rien. Or, la société moderne a consacrée pour le meilleur comme pour le pire, la valeur, l'autonomie et la liberté de l'individu. Peu à peu, l'Église s'en accommode, mais il y a plus. La récente levée du voile, écrit-elle, sur les affaires de pédophilie ne représente que la prémisse d'une exigence de transparence et de rigueur qui concerne toute la gouvernance ecclésiale. Dans l'Humanité, Jean-Luc Nancy interprète la question de la sexualité dans l'Église à la lumière de son histoire millénaire. Le christianisme a été la manifestation la plus visible d'une transformation anthropologique. Au lieu d'appartenir à un peuple, à ses lieux et à ses dieux, l'homme s'est mis à appartenir simultanément à lui-même et à un dehors absolu de lui-même, une double appartenance qui expliquerait à la fois l'élan des conquêtes territoriales, l'invention de la démocratie et l'attitude ambiguë à l'égard de la sexualité. Le premier effet fut, avec la démocratie, le brouillage de l'identité souveraine. Ni Dieu, ni roi, écrit-il, le peuple n'en finit pas de se chercher. Le second fut, avec l'amour de tous pour tous, le remodelage complet des modes du désir et du jouir. On pourrait dire, pour garder le parallèle avec le peuple, que cet amour n'en finit pas de se chercher. Et de fait, il y a, au sein de cette mutation de civilisation, une attraction polymorphe pour l'infini et ou pour son double erratique, l'indéfini. Le célibat des prêtres, écrit également Jean-Luc Nancy, n'était pas une conséquence nécessaire du cadrage des risques, mystères, vertiges propres au sexe et au désir, puisqu'il ne s'est imposé dans l'Église que dans l'Église catholique. Le philosophe rappelle qu'il a aussi été instauré afin d'empêcher la formation de dynasties familiales se réservant les charges ecclésiastiques. Cependant, force est de constater que le vœu de chasteté n'a jamais été observé sans faille. La sexualité des prêtres et des prélats fut souvent notoire, mais l'extension des activités ecclésiastiques dans la société, dans l'enseignement en particulier, puis dans les activités culturelles ou de loisirs, a rendu plus complexes et sournoises les voies de la tentation, aussi bien que celle de la dissimulation. Et lorsque s'est affaiblie l'immunité sacrée, il n'est pas étonnant que soit révélée la contradiction intime, pénible et honteuse d'un système qui devait très peu ou rien à la vérité de la foi et tout à l'entretien d'un appareil de puissance. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, Trump après l'enquête russe.
C'est ça, avec ses accusations de la part de Trump de haute trahison. Donald Trump hier sur Fox News pour qualifier ceux qui cherchaient sa destitution alors qu'il vient d'être disculpé le week-end dernier dans l'enquête sur ses liens avec la Russie. Au bout de 2 ans, donc, le département de la justice l'exonère des accusations de collusion avec la Russie. Donc de trahison. Les démocrates qui visaient l'impeachment se demandent donc si et comment tourner la page. Et pendant ce temps, Trump est déjà reparti en campagne. Alors victoire médiatique et domination politique. On voit ça avec vous, Marie-Cécile Nave. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, auteure de Trump, l'onde de choc populiste et Trump, la revanche de l'homme blanc, l'homme blanchi cette fois, puisque, comme le disait Lindsey Graham, donc le sénateur à Trump dimanche, c'est en quelque sorte le premier jour d'une nouvelle présidence. Après quasiment 2 ans d'enquête, 2800 assignations, 500 témoignages. Donc l'accusation la plus grave de collusion, c'est-à-dire entente avec la Russie, n'a pu être prouvée, ce qui aurait valu un impeachment. Du coup, ces accusations de haute trahison de Donald Trump hier envers ses adversaires, c'est d'abord une victoire médiatique, cette fin de l'enquête.
C'est une grande victoire médiatique, oui, et symbolique aussi pour lui dans le processus de sa propre stratégie politique en vue des élections de 2020. Évidemment, il va capitaliser sur, non pas ce que dit le rapport Mueller qu'on n'a pas lu, mais sur les 4 pages qui le résument d'après son propre ministre de la Justice. Donc on a un intermédiaire qui interprète aussi ce qu'il a pu lire. Et sur la question sans doute la plus grave qui était posée, c'est celle d'une obstruction à la justice, avec notamment le limogeage de James Comey, directeur du FBI. Et bien là-dessus, Mueller semble dire que effectivement, il n'a pas de preuves pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre Trump, mais il ne l'exonère pas complètement. Ça, c'est dans le mémo du ministre de la Justice. Donc,
voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est même pas Mueller qui le dit, c'est William Barr, le ministre de la Justice, dans ses fameuses 4 pages. Comme vous le dites, il y avait 2 questions. Hein. Collusion, donc là, il est exonéré, dit le rapport. Et puis, les soupçons d'obstruction. Là, il n'y a rien qui indique qu'il a fait obstruction, mais il n'est pas exonéré non plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer les mots de Donald Trump assez accommodants envers Mueller? Il a salué son travail honorable le week-end dernier, alors même qu'il avait quand même fait des attaques répétées contre lui. Il parlait du gang Mueller à l'époque.
Oui, comme s'il était le complice des démocrates, de tous ses ennemis qui voulaient l'abattre, qu'il était téléguidé par on ne sait quelle main invisible politique ou plus mystérieuse. Et puis, comme Mueller, finalement, n'invite pas à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires contre Trump, c'est devenu presque son ami. C'est comme ça que fonctionne Trump. Il y a les gens qui sont contre lui et les gens qui sont pour lui. Et il fonctionne aussi en termes très binaires, selon lesquels le monde est divisé entre les gagnants et les perdants. Très clairement, il est dans une phase où il est gagnant. Après un début d'année 2019 difficile, on en avait parlé ici même d'ailleurs, hein, avec le shutdown, l'entrée en fonction d'un nouveau congrès avec une chambre des représentants très féminisée et très démocrate surtout, plusieurs difficultés sur la scène internationale avec Kim Jong-un, qui visiblement l'a mené en bateau dans les négociations sur le nucléaire. Donc là, il entre dans une phase de reconquête et de revanche. Il le dit d'ailleurs dans plusieurs interviews. Ouais. Maintenant, il va pouvoir prendre sa revanche sur on ne sait pas très bien qui, mais tous ceux qui sont contre lui. Et en gros, c'est les démocrates, bien sûr, l'establishment d'une manière générale, les fake news médias, les ennemis du peuple, c'est-à-dire les grands médias, ouais, tels qu'on les connaît. Et ça redonne un élan à sa stratégie de communication populiste, c'est-à-dire je suis seule contre tous, mais vous voyez bien, c'est moi qui ai raison. Donc vous avez bien fait de m'élire.
Donc c'est pour ça que je parlais de victoire médiatique, c'est la victoire du récit de la chasse aux sorcières. Exactement. Avec pour effet collatéral, alors à quel point c'est grave vous allez nous dire, mais un ensemble de doutes, d'interrogations de la presse, voire d'accusations de la presse et des éditorialistes entre eux sur, disons, la manière dont ils ont traité justement cette affaire. Il y a des éditoriaux cinglants, catastrophic media failure, ça c'est dans le Wall Street Journal quand même, envers le New York Times et le Washington Post.
Oui, un petit peu de remise en question d'une partie de la presse, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, hein, sur ce rapport Mueller. On se doute bien que par son passé, par ce qu'il fait au quotidien, par ce qu'on observe de lui, le président Trump n'est pas quelqu'un qui est tout blanc, entre guillemets. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a beaucoup de forts soupçons de conflits d'intérêts. Le limogeage de James Comey est extrêmement louche. Il y a aussi plus de 30 personnes qui ont quand même été inculpées dans l'enquête russe. Hein. 30 Russes qui ont été inculpés. Paul Manafort, etc. Donc il y a quand même, dans son entourage...
6 personnes autour de Donald Trump.
Voilà, 6 personnes autour de Donald Trump. Même si il n'y a pas forcément de lien complètement direct avec la campagne électorale. Il est quand même entouré de gens qui ont un mail à partir avec la justice ou qui ont eu mail à partir avec la justice. Donc, c'est pas un personnage qu'a priori on considère comme étant complètement honnête. Mais effectivement, sans doute que certains médias sont allés, bon, comme nous peut-être, hein, un peu vite dans les anticipations du rapport Mueller. Moi, je dirais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes et qu'il y a eu un teasing aussi involontaire de la part du procureur Mueller qui nous a laissé penser qu'il allait peut-être sortir une grosse affaire. Et Elle est là, peut-être, cette grosse affaire, mais il ne peut pas le prouver.
Avec cette épée de Damoclès, effectivement, qui faisait également un bon scénario. Chose intéressante également, c'est que dans les sondages, en tout cas, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. En tout cas, il y avait 38% dans un récent sondage Ipsos Politico qui jugeait que l'impeachment devait être une priorité du nouveau Congrès. Qu'est-ce que ça veut dire que finalement, ces affaires importent peu à l'électeur de Donald Trump ou à l'électeur américain en général?
Oui, on va voir comment ça se passe dans les semaines qui viennent, comment lui il va dérouler sa stratégie, quelle incidence ça va avoir sur l'électorat. Mais c'est pas très surprenant finalement que chacun reste dans ses positions. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a contribué à très largement cliver l'Amérique entre les pour et les anti-Trump. Mais quand même, l'avantage pour lui, c'est que ça participe d'une galvanisation du cœur de son électorat. Et comme sa stratégie, visiblement, pour les élections présidentielles de 2020, c'est de ne pas élargir sa base, mais vraiment de se concentrer sur les gens qui l'ont élu en 2016 avec des stratégies état par état, on s'en souvient. Cette stratégie s'en retrouve aujourd'hui renforcée, confortée, et ce sont aussi des gens qui sur le terrain font campagne et essaient de mobiliser autour d'eux pour un vote en sa faveur. En 2020, on est quand même encore loin des élections présidentielles de novembre 2020. Cependant, pour lui, c'est une séquence quand même où il se sent très fort, où la confiance est retrouvée, et ça joue évidemment sur le long terme.
Et de fait, comme je disais, elle a reparti en campagne dans le Michigan, un de ces swing states qu'il avait gagné en 2016. Alors, une fois passée, disons, cette option éventualité de l'impeachment, d'abord est-elle vraiment passée? Et puis surtout, justement, que vont pouvoir faire les démocrates d'ici 2020 pendant les primaires? Il y en a une partie qui veulent quand même le rapport complet d'ici le 2 avril. Et puis, il y a une bataille entre eux en ce moment pour savoir s'il faut aller de l'avant, comme le dit Tulsi Gabbard, une des candidates, ou alors, et axer la campagne sur les questions économiques, ou alors continuer justement dans les accusations et puis les commissions d'enquête.
Oui, les démocrates quand même ont pris entre guillemets un coup sur la tête avec les conclusions du rapport Mueller. Ils s'attendaient sans doute à autre chose, donc ils sont un peu fragilisés, mais ça les galvanise aussi pour combattre Trump. Soit effectivement en prolongeant les enquêtes qui sont en cours au Congrès, il y a plusieurs enquêtes sur Trump, et ils vont sans doute se servir du rapport Mueller qu'ils espèrent avoir pour pouvoir nourrir ces enquêtes-là. Il y a aussi d'autres enquêtes sur les conflits d'intérêts de la Trump Organization, sur les affaires de scandales sexuels, voire de viol de la part du président. Et puis, comme vous le disiez...
Mais qu'ils ne peuvent pas amener à une destitution aussi.
Non, pas une destitution pour ça. La destitution, c'était quand même une hypothèse assez fragile, on n'y croyait pas trop. Et puis, vous avez... plutôt une autre partie des démocrates, et il va falloir qu'ils décident effectivement ce qu'ils privilégient, qui ont envie de dire, c'est peut-être notre chance, ce que dit le rapport Mueller, parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'agenda et s'opposer à Trump projet contre projet, avec déjà des choses qui commencent à sortir sur le Green Deal, New Deal, sur le fait de mettre en place une assurance maladie universelle, alors que Trump lui-même... toujours obsédé par le fait de supprimer l'Obamacare et n'a pas de plan B pour l'assurance maladie, mais va s'opposer aux démocrates là-dessus, sur le coût de l'enseignement supérieur, sur la réduction des inégalités socio-économiques, etc. Peut-être que justement les démocrates vont se reconcentrer sur le fond, sur l'agenda, et ça peut être une chance pour eux, parce que comme ils sont quand même très divisés, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur un projet commun.
Et la campagne et la bataille qui va repartir, et sur l'Obamacare qui est déjà reparti, on en reparlera bientôt. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave.
Merci.
Merci chercheuse associée à l'IRIS. On renverra à vos livres L'ongle de choc populiste et La revanche de l'homme blanc. Bonne
Merci
journée.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Étudiants, fans de cinéma,
allez moteur!
Testez votre sens critique en devenant juré du prix France Culture Cinéma des étudiants.
Visionnez chez vous 5 films présélectionnés et soutenus par France Culture cette année.
Et décernez le prix à votre lauréat lors du prochain Festival de Cannes.
Monster!
Pour candidater, rien de plus simple.
Envoyez-nous une critique du film de votre choix à com.franceculture@radiofrance.com et une copie de votre carte étudiante.
Allons-y!
Attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater.
Plus d'infos sur franceculture.fr.
Youri Favorine interprète Franz Liszt à l'auditorium de Radio France. Le 7 avril à 16h, le pianiste russe, lauréat du prestigieux concours Reine Elisabeth, interprète Les années de pèlerinage de Liszt. Une recherche de l'absolu dans l'atmosphère intime de l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner. Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors de plus en plus joli aujourd'hui, des militants antiracistes ont censuré une représentation d'Eschyle à la Sorbonne.
Au motif que la pièce comprenait des blackface, autrement dit des blancs grimés en noir, ce que le metteur en scène de la pièce récuse absolument, expliquant dans le Figaro qu'il s'agit de dieux phéniciens maquillés en couleur cuivre, d'où l'impossibilité, dit-il, de de parler de racisme en pareil cas. Alors bien sûr, le racisme inconscient, le racisme ignoré, cela existe. Bien souvent, il s'agit de stéréotypes perpétués parce que personne n'a pris soin de les démonter et certains stéréotypes ont la vie particulièrement dure. Et du coup, il est évidemment essentiel de dénoncer ces stéréotypes et d'œuvrer à leur disparition en étant à la fois intraitable avec ces représentations et plutôt bienveillant avec les personnes qui les colportent, dès lors, bien entendu, que celles-ci ignorent les erreurs qu'elles perpétuent. Car il n'est pas indifférent que la lutte contre le racisme se soucie des intentions des individus. Je m'explique. Le racisme, comme on le sait, n'est pas une opinion, c'est un crime. Et comme tout crime, celui-ci doit être commis en connaissance de cause. Voilà pourquoi il est essentiel de chercher à comprendre si quelqu'un est ou n'est pas conscient de proférer une injure raciste ou d'avoir un comportement discriminatoire. Dans la plupart des cas, le comportement délibérément raciste ne fait aucun doute. C'est le cas par exemple de certains supporters dans les stades ou bien de certains utilisateurs de réseaux sociaux qui savent fort bien profiter de l'anonymat pour proférer des horreurs. Tous ces gens sont conscients d'être racistes, leurs propos sont intentionnels et délibérés. La loi est là pour sanctionner ces comportements parce qu'ils n'ont aucune excuse et en particulier pas celle de l'ignorance. Mais si l'on fait disparaître l'intentionnalité, que va devenir le combat antiraciste? Si l'on confond le stéréotype, le préjugé, l'appel à la haine, plus encore le préjugé inconscient et l'appel à la haine parfaitement délibéré, on risque d'aboutir à diluer le combat antiraciste. Voilà pourquoi il faut préciser à chaque fois les choses, parce que le racisme est un crime, conservons le terme pour les cas où il est réellement présent, faute de quoi on risque de servir ceux que l'on prétend combattre.